Bonsoir, journée internationale de la presse, publication du calendrier électoral par la commission électorale indépendante, début des plénières à l'Assemblée nationale après un temps mort, tels sont les trois sujets à la une de la tribune de la presse de ce vendredi 5 mai 2006. Comme la semaine passée, nous avons trois confrères dans ce studio pour en parler. Félix Kabouzi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus, paraissant à Kinshasa. Victor Eyobi, rédacteur en chef du quotidien Forum des As, paraissant également à Kinshasa. Enfin, Wichi Amba, rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal paraissant sur Internet. Il intervient au téléphone à partir de Bruxelles, en Belgique. Au cours de l'année 2005, 63 journalistes sont morts à travers le monde dans l'exercice de leur métier. C'est le ministre de l'Information et Presse, Henri Movasakani, qui l'a souligné mercredi dernier au Collège Boboto au cours de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Médias, développement et éradication de la pauvreté est le thème retenu cette année en RDC. Mais qu'en est-il du procès de notre confrère Franck Guiquet, assassiné avec son épouse en 2005? Le ministre de l'Information et Presse y répond au micro de notre consoeur Mini Engumba Mulongo.
Nous sommes en procédure judiciaire et vous savez, la législation congolaise impose un secret total sur une procédure judiciaire lorsqu'elle est en cours et ça relève d'un autre pouvoir. Moi, je suis de l'exécutif et le pouvoir judiciaire est libre. Il est en train d'élaborer selon les prescrits de la loi sa démarche. Vous savez, en matière pénale, les démarches sont longues, hein, surtout lorsqu'il y a eu un crime aussi spectaculaire comme celui qui est arrivé au couple Ngike. Les esprits sont impatients de voir éclore toute la vérité tout de suite. Or, malheureusement, le temps que vous avez n'est pas le même temps dans le judiciaire. Il faut avoir les meilleures informations possibles pour qu'un procès public soit digne. Sinon, on risque d'assister à une parodie, ce qui ne ferait pas le bonheur des journalistes.
Quant à Donald Mbaya, président de l'ONG Journalistes en danger, il fustige la lourdeur dans la procédure judiciaire utilisée dans l'enquête sur ce double assassinat. Le président du Journaliste en danger, Donald Mbaya, a été joint par notre consoeur Mimi Ngumba Mulongo. Nous l'écoutons.
Nous nous réjouissons de l'information donnée par le ministre, mais j'ai quand même inquiet par rapport à la procédure. Nous assistons là à deux procédures différentes. Il y a une procédure au niveau de l'auditorat militaire de Kinshasa Matete et il y a une procédure au niveau du parquet général de la République. Nous prenons le ministre au mot et nous espérons que ces enquêtes-là se poursuivent effectivement et sérieusement et qu'il n'y a pas que Jed et les enfants des défunts qui continuent à aller comparaître. Mais nous devrons quand même rappeler que lorsque le chef de l'État nous a reçus le 9 mars, avec Reporters sans frontières, il nous a promis un procès très rapidement et il avait même ajouté de préférence avant les élections. Or, les élections sont fixées maintenant au 30 juillet. J'attends fermement que d'ici le 30 juillet, que le procès puisse ne fût que commencer.
Félix Kabouzi, vous êtes directeur de publication au sein du quotidien La Référence Plus, paraissant à Kinshasa. Et justement, notre confrère Franck Guiquet, qui a été assassiné en novembre 2005, si je ne me trompe pas, travaillait au sein de la rédaction justement dans laquelle vous travaillez actuellement. Il s'occupait de la rubrique politique. Est-ce que vous êtes convaincu par les propos tenus par le ministre de la Presse Information concernant le double assassinat de notre confrère et de son épouse?
Bon, écoutez, Claude, je crois que à La Référence Plus, nous luttons depuis ce meurtre pour que le procès ait lieu, pour que la vérité soit connue. Nous regrettons effectivement, comme Don Ambaya l'a dit tantôt, que 6 mois après ce meurtre, qu'il n'y ait pas encore eu début de procès, effectivement, ça mobilise toute la presse. Vous savez que tant que la presse n'aura pas de lumière autour de ce double assassinat, nous vivrons toujours dans l'inquiétude. Donc je pense sincèrement que c'est un combat de l'ensemble de la profession et je pense même au niveau de l'opinion. L'opinion est très mobilisée autour de ce dossier. Nous espérons sincèrement que le parquet général de la Gombe et l'auditorat militaire de Matete vont d'ici là là débuter ce procès, puisque sinon les journalistes travailleront vraiment dans la plus grande inquiétude. Il ne faudrait pas que ce crime-là soit tombé dans l'oubli, et GED, tout comme l'ensemble de la corporation, se mobilise pour que ce meurtre-là ne puisse vraiment pas tomber dans l'oubli.
Il y a deux instances judiciaires qui s'occupent de ce dossier. Il y a le parquet général de la Gombe, de la République, le parquet général de la République et l'auditorat militaire de Matete. Mais est-ce que cette double juridiction ne gêne-t-elle pas aussi la poursuite de cette enquête?
Bon, nous nous sommes fait expliquer que puisque les présumés meurtriers sont des militaires, on les avait présentés, c'est des militaires de la DENIAP, on nous a dit que comme ils sont militaires, ils doivent d'abord être poursuivis par une cour militaire, donc par une juridiction militaire, mais il y a aussi probablement des implications au niveau des civils. C'est peut-être pour cette raison que le parquet général de la Gombe s'occupe également du dossier. Mais là, ce sont des informations qui nous ont été données après l'arrestation des meurtriers.
Voilà, nous avons également dans ce studio Victoire Eyobie. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Forum des As, paraissant également ici à Kinshasa. Nous avons entendu le président de l'ONG Journalistes en danger se plaindre du fait que jusque-là, il n'y a que la famille de notre regretté confrère Franck Guiquet et Journalistes en danger qui se rendent devant la cour. Mais les autres qui sont censés répondre également de ce meurtre, jusque-là, on ne les interroge pas. Comment vous réagissez face à cela?
Je ne sais pas les autres qui vous pointez du premier coup, mais comme nous l'avons suivi tout à l'heure, il y a également les hommes en uniforme qui ont été indexés. Moi, je prends plutôt sa déclaration dans le sens de la pression qui est faite auprès des instances judiciaires. C'est vrai que GED joue un rôle de premier plan, ce qui est tout à fait normal en tant qu'organisation de défense des journalistes. Il y a également la famille, mais je suis pour une plus grande pression, une plus grande mobilisation des organisations professionnelles des médias, des organes de presse même. Régulièrement, nous voyons dans la référence plus, il y a la photo du couple assassiné qui est reprise pour une manière de montrer que justice doit être faite. Mais je crois que par solidarité, il y a lieu que les autres organes de presse, également les télévisions, les radios, voient comment faire pression dans cette affaire, d'autant plus que c'est la sécurité de tous les journalistes, de tous les professionnels des médias qui est mis en cause. Vous savez, nous entrons dans une période électorale et si la sécurité des journalistes n'est pas assurée, nous risquons d'entrer dans une campagne qui ne sera pas couverte comme il le faut, d'autant plus qu'il y a quelques jours seulement déjà, il y a de télévisions qui ont été attaquées à l'intérieur du pays. C'est pour montrer que la menace demeure persistante et que toute la profession mérite de se lever et de soutenir d'abord ces procès avant de voir les autres aspects, notamment le problème de financement qui est en train qui est d'actualité actuellement.
Rejoignons notre confrère Wichi Amba. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal paraissant sur Internet, et vous intervenez au téléphone à partir de Bruxelles en Belgique. Au cours de cette année, de l'année 2005, 63 journalistes sont morts à travers le monde dans l'exercice de leur métier. Est-ce que cela veut dire que le métier de journaliste continue à être un métier dangereux?
Mais absolument, étant donné que la première mission d'un journaliste, c'est la recherche de la vérité. Et comme l'adage dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Naturellement, c'est un métier qui expose les journalistes à tous les risques. Et moi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur les déclarations du ministre de l'Information. Quand il parle de secret de l'instruction, il a peut-être raison et tort. Il a raison parce que, effectivement, lui, en tant que membre de l'exécutif, ne peut pas violer le secret de l'instruction. Mais il a tort parce qu'il oublie que la première enquête menée par la police et le parquet, je crois de Matete, au sujet de l'affaire Ndiké, l'enquête a été conclue par un crime crapuleux.
Donc, Nick et son épouse ont été tués par des fous furieux qui n'ont pas volé peut-être leurs appareils téléphoniques seulement. Et là, le ministre ne l'a pas dit. Deuxièmement, quand il dit que le pouvoir judiciaire est libre, mais c'est tout à fait archi faux. Et nous y reviendrons quand nous parlerons du Parlement. Moi, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer. Je constate en lisant l'enquête informelle menée par le GED que l'affaire Ndike semble avoir un rapport avec l'arrestation du journaliste Patrice Botto. Le journaliste Patrice Botto a été piégé le 2 novembre 2005. Et apparemment, par son patron ou le fondateur de son journal, qui n'est autre que l'actuel administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, M. Miranjoku. Il a fait sortir Patrice Botto de sa cachette, où il s'est terré après avoir dit que Joseph Kadir avait transféré 30 millions de dollars au système éducatif tanzanien. Patrice Botto a été arrêté et il a subi la torture, selon les échos que nous avons. Où ça? Au service spécial de la police. Un service qui dépend directement du cabinet présidentiel et entre minuit et plus, donc dans la nuit du 2 novembre au 3, Ndike a été abattu. Y a-t-il un rapport entre les deux faits? Et comme par hasard, un mois après, M. Miranjoku, qui avait demandé à Patrice Botto de sortir de sa cachette, a été promu administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Vous me direz que c'est une coïncidence. Voilà un élément pour le débat.
Voilà, mais si nous pouvons élargir le sujet, j'aurais bien à vous, Félix Kabouizi. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus, paraissant ici à Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire qu'en République démocratique du Congo, la liberté de la presse existe? Le journaliste travaille sans être embêté.
Non, ce n'est pas vrai, puisque pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un de vos confrères ici à Radio Okapi a connu des problèmes, je crois, c'était en région.
Oui,
et il y a
en scène même à soi.
Ah voilà.
Il a été brutalisé par la garde présidentielle.
Voilà, alors 2 ou 3 mois avant, c'était un autre confrère de Radio Okapi qui a échappé à une fusillade à Lubumbashi. Et ici à Kinshasa, régulièrement, il y a un mois et demi, des policiers ont investi une chaîne de télévision, Tropicana, pour ne pas la citer. Ils ont tabassé le rédacteur en chef, ils ont tabassé des journalistes, des présentatrices. Donc c'est régulièrement que la presse est embêté dans notre pays. Et le Kangui qui démontre une fois de plus qu'effectivement exercer ce métier est encore très risqué dans notre pays. Et vous vous rappelez qu'il y a de cela 2 ans, notre pays figurait parmi les États prédateurs de la liberté de la presse. Donc en fait, on n'a pas encore beaucoup évolué, en tout cas en ce qui concerne la liberté d'exercer notre profession. C'est vrai qu'il y a des dispositions de la loi qui s'améliorent quand même par rapport à l'époque Mobutu, mais dans les faits, c'est assez régulièrement que les hommes en armes ou même les hommes au pouvoir se permettent tout, bastonner les journalistes, les enfermer, et ainsi de suite.
Je reviens à vous, Victoire Eyobi, vous êtes rédacteur en chef du quotidien Forum des As. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment une tentative dans notre pays de museler la presse?
Oui, au vu des réalités des derniers événements, nous pouvons l'affirmer. Mais ce qui est vrai, c'est que la liberté de la presse, c'est un combat de tous les jours. C'est un champ que nous sommes appelés à conquérir. Et nous ne devons pas nous attendre de quelque chose au niveau des acteurs politiques qui ont leurs intérêts, qui ont des ambitions, et surtout qui ne tiennent pas toujours à ce qu'il y ait de la lumière sur ce qu'ils sont en train de faire, sur leur gestion et autres. Donc quelque part, la presse gêne. Et comme elle gêne, il faut utiliser certains moyens illégaux pour la brimer, pour la faire reculer et autres. Moi, je crois que le combat est là, et même en allant aux élections, nous devons nous battre pour occuper le terrain comme il le faut. Nous devons nous battre pour être acceptés comme tels et pour fonctionner sur le terrain. Donc, c'est le problème demeure réel, même si par moment on a l'impression comme s'il y a un temps d'accalmie, mais dans le fond, il y a cette méfiance qui est permanente.
Oui, Chiamba, vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal paraissant sur Internet. Vous intervenez, je le rappelle, au téléphone depuis Bruxelles en Belgique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que si le journaliste est parfois en danger ici en République démocratique du Congo, il y a aussi sa part de responsabilité dans le traitement justement des nouvelles?
Oui, mais c'est-à-dire que cette presse congolaise, c'est vrai. Nous venons de découvrir la liberté de la presse. Il n'y a pas une tradition de presse libre, ni pendant la colonisation, ni après la proclamation de l'indépendance. Donc, c'est une culture que nous sommes en train de nous imprégner. Ça viendra avec le temps. Souvenez-vous qu'après la Révolution française de 1789, mais la presse française était qualifiée comme une presse pamphlétaire. Donc, il a fallu que les gens, je dirais, vident leur sac à un certain moment. Et moi, je dis que si on comparait les écrits de la presse zaïroise des années 90 jusque 97, et quand on compare les écrits de la même presse, je dirais aujourd'hui congolaise, de 97 à aujourd'hui, mais on a fait du progrès. Aujourd'hui, hier, les commentaires était confondu avec les faits. Aujourd'hui, on trouve les faits, évidemment un peu mélangés avec le commentaire, mais les faits sont là. Donc il y a un progrès. Malheureusement, comme mon confrère Yobi a dit, la liberté est constamment menacée.
Non, mais il y a aussi la part de responsabilité des journalistes qui ne respectent pas toujours la déontologie dans le traitement des informations.
Oui, tout à fait. Et moi, je crois que c'est un problème aussi de l'organisation du métier de journaliste dans notre pays. Moi, je crois que la loi, on donne un peu trop facilement la carte de journaliste professionnel dans notre pays. Sous d'autres cieux, je prends un exemple, la Belgique, par exemple, pour avoir la carte de journaliste professionnel, il y a une des conditions essentielles, vous devez prouver avec votre fiche de paye que vous tirez au moins 50%, si pas 51% de vos ressources de l'exercice du métier de journaliste, pour qu'on voit que vous avez passé toutes les étapes et vous êtes un journaliste confirmé, vous avez fait un stage, etc. etc. Donc, beaucoup de nos journalistes sont devenus journalistes. J'avais peut-être utilisé un terme méchant, après avoir échoué partout, on dit je deviens journaliste, et souvent ils ne connaissent pas les déontologies journalistiques. Voilà. Mais je crois que ça viendra avec le temps.
Je vois Félix Kabouizi à caisser rapidement s'il vous plaît, parce qu'on est déjà à la fin du premier thème.
Oui, ce que tu dis est tout à fait vrai, je crois que ça c'est la plus grande menace contre notre profession, c'est le fait, comme le dit toujours le professeur Kim Kay, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à voir avec la profession, qui s'y retrouvent vraiment par effraction, et qui ne prennent aucune précaution du tout pour respecter les règles déontologiques et d'éthique. Il n'est pas normal, franchement, de voir ce qui s'écrit parfois dans notre profession, dans notre journaux. Et souvent, la plus grande critique que nous font les collègues extérieurs, c'est que effectivement, il y a très peu de professionnalisme dans notre profession. Je crois que tout part d'abord du recrutement, tout part également de la formation. Quel est le profil de ceux qui dirigent nos journaux, que ce soit au niveau des directeurs de publication, au niveau des éditeurs ou même au niveau des directeurs de programmes. Avec aujourd'hui la prolifération des radios et des télévisions animées par les acteurs politiques, nous assistons vraiment à un phénomène où toutes les règles de la profession sont complètement foulées aux pieds. Et là, effectivement, réside un vrai danger pour l'indépendance et la liberté de journalistes.
Voilà, c'est depuis le dimanche 30 avril 2006 que la Commission électorale indépendante, CEI, a publié le calendrier électoral. Et ce calendrier indique que les élections présidentielles et à la députation nationale sont prévues au 30 juillet 2006. Est-ce d'après vous un calendrier réaliste qui sera respecté après les quatre autres qui n'ont pas été jusqu'ici? Je m'adresse à vous, Victoire et Yobi.
Oui, disons qu'il y a toute une polémique que ce nouveau calendrier vient de créer, d'autant plus qu'on ne sait pas toujours sur quelle base la CEI se fonde pour définir ces calendriers, et d'autant plus que l'expérience nous montre également que ces calendriers ne sont pas respectées régulièrement. On retombe sur les mêmes problèmes. Et là, personnellement, je voulais ici soulever un peu et déplorer le côté symbolique, le côté folklorique même de tout ce qui est en train de se faire. Vous savez à propos de la CEI comme du processus électoral, il y a beaucoup de déficits qui ont été relevés et qui méritent avec le temps que la CEI puisse prendre des dispositions pour remettre un peu les choses en ordre.
Lesquelles?
Notamment le côté logistique. Vous savez, du côté logistique, il y a eu beaucoup de déficits. Il y a beaucoup de coins du pays qui n'ont pas été touchés, atteints, tout simplement parce qu'il manquait des moyens de locomotion, il manquait de ceci. Les mêmes erreurs qu'on a retrouvées à Kinshasa, c'est pratiquement dans toutes les provinces qu'on a vécu. Les mêmes problèmes, les mêmes erreurs, retard des kits, déplacement des ceci. Et de deux, il y a eu le problème de la communication, c'est-à-dire l'information de la population sur ce qui est en train de se faire, sur sur quoi ils vont pratiquement fonder leur scrutin et autres, leur vote. Donc je me dis que quelque part, les correctifs essentiels, les plus importants, doivent être faits et de la sorte, on pourra définir un calendrier définitif et on engage la population.
Vous voulez dire par là que ce calendrier n'est pas encore défini?
Non, ce n'est pas définitif, d'autant plus qu'il est contesté. Là, c'est la CEI qui a proposé. La CEI à elle seule ne suffit pas. Il faudrait également qu'elle implique la classe politique, qu'elle implique notamment le Parlement et qu'ensemble, ils voient comment ils peuvent avancer. Donc, quelque part, on a l'impression comme si la CEI est en train de se couper de la base. Et à la fin, soit on aura des élections symboliques, soit la CEI sera de son côté et la classe politique et les autres se retrouvent de l'autre côté parce que ça ne va pas. On ne peut pas comprendre que toutes les choses soient faites du jour au lendemain. On nous parle et comment les enregistrements des députés et des présidentiables sont faits. On nous dit que non, c'est maintenant qu'on va aller faire, qu'on va aller préparer les urnes. C'est maintenant qu'on va aller préparer les bulletins des fautes. Mais toutes ces choses-là, sur le plan logistique, devraient se faire sans nécessairement alerter l'opinion, sans nécessairement bloquer les calendriers, sans nécessairement reporter les choses. Le report des élections, la prolongation, c'est une évidence. Mais c'est la manière de le faire qui est en train de poser problème actuellement.
Voilà. Nous rejoignons Wechi Yamba. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal paraissant sur Internet. Vous intervenez au téléphone depuis la Belgique. Est-ce que vous pensez que ce calendrier publié par la CEI est réaliste?
Mais absolument pas. Et j'aimerais quand même qu'on fasse un petit flashback, parce que ne perdons pas de vue que lors du dialogue intercongolais, la durée de la transition a été clairement définie d'une durée totale de 3 ans, prenant cours le 30 juin 2003. Donc cela veut dire que la transition est régie actuellement par la constitution actuellement en vigueur et que le 30 juin 2006, la constitution de transition dans son article 196 est claire. Donc cette constitution est caduque. Alors, lorsque le président de la CEI prolonge la dit que les élections auront lieu le 30 juillet. Ok, nous sommes d'accord au nom du principe de continuité de l'État, les institutions en place continuent à fonctionner, mais sur base de quel texte juridique?
Est-ce que vous avez l'impression, Wechiamba, que l'abbé Malumalu, en publiant un calendrier qui va au-delà du 30 juin 2006, prolonge de fait la transition?
Mais absolument, absolument, parce que la loi fondamentale de la transition, c'est la Constitution qui a été promulguée en avril 2003. Et mon confrère Ayoubi a tout à fait raison de parler de cette cassure, de cette fracture entre la CEI et la classe politique. Apparemment, la CEI se prend désormais pour le représentant des intérêts de puissances étrangères qui financent les élections. Parce que le discours que tient l'abbé Malumalu est en décalage avec ce que les Congolais pensent. son discours ressemble plus à ce que des personnalités étrangères, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez à qui je fais allusion, disent. Donc, il y a des personnalités étrangères, une semaine de retard ou deux semaines de retard, ce n'est pas grave. Et puis quand vous invoquez le fait que la Constitution sera caduque, on vous dit vous faites preuve de juridisme. Donc le juridisme, c'est toujours à géométrie variable. Quand ça arrange le monde extérieur, comme c'est le monde extérieur qui finance les élections, eh bien l'opinion des Congolais compte très peu. C'est voilà. Ça qui est malheureux à constater.
Voilà. Félix Kabwizi, vous êtes directeur de publication au quotidien La Référence Plus, paraissant à Kinshasa. Est-ce que vous avez l'impression, comme vient de nous le dire notre confrère Witch Amba, que le discours de l'abbé Malumalu ou la procédure qu'il utilise est en décalage avec ce que pensent beaucoup de Congolais?
Bon, merci. J'aimerais quand même dire un mot sur le calendrier lui-même. Je pense que ça, c'est la troisième fois que Abbé Malumalu publie un calendrier qui n'est finalement pas respecté. C'est un peu plus parce qu'il y a trop de forcing dans l'élaboration de ce calendrier. Et même quand vous analysez les différentes étapes que la CEI a données avant d'arriver à l'organisation proprement des élections le 30 juillet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a d'abord le dispatching des isoloirs qui commence à venir depuis 2, 3, 4 jours. Il faut être en mesure de les dispatcher sur l'ensemble du pays. Maintenant, comme nous parlons, l'Afrique du Sud doit être en train de s'atteler à l'impression de plus de 25 millions de cartes d'électeurs.
Le bulletin de vote.
Et comme la CEI a dit, il faudrait au moins 270 bulletins de vote différents, puisqu'il y a au moins 269 partis politiques et candidats indépendants et consorts, plus les bulletins de vote, plutôt 269 circonscriptions électorales à travers le pays, plus un bulletin unique pour les présidentielles. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ces différents bulletins de vote doivent être acheminés dans les chefs-lieux de région, dans les chefs-lieux de sous-région, dans les chefs-lieux de territoire et dans tous les 50 000 bureaux de vote que compte le pays. C'est un travail énorme. Et avec les difficultés de transport que nous connaissons dans ce pays, les problèmes qu'on a connus lorsqu'il s'est agi, par exemple, d'acheminer les kits électoraux, on peut être parfois contraint à reviser ce calendrier de par seulement les tâches pratiques à faire.
Donc, le repousser à plus tard,
probablement. C'est-à-dire. Imaginons qu'il y ait un retard dans le dispatching des isoloirs ou même dans le dispatching des bulletins de vote dans l'une ou l'autre région, puisque vous savez que la plupart des régions aujourd'hui chez nous sont inaccessibles. Même la fois passée, il y avait des hélicoptères de la MONUC qui devaient être déployés. On a connu toujours des retards dans le travail d'enrôlement. Donc, il est fort possible, je dis bien, il est fort possible que rien que par des tâches techniques à faire, transport de matériel, impression, et ainsi de suite, qu'on connaisse un retard qui justifierait une autre prolongation.
Mais prolonger une fois de plus, ça poserait un problème politique, parce qu'il y a des gens qui disent qu'en prolongeant comme ça, en élaborant un calendrier qui va au-delà du 30 juin, l'abbé Malumalu devait consulter la classe politique et qu'il ne pouvait pas le faire comme ça.
Mais oui,
ça pose un problème politique.
Moi, je partage entièrement cette opinion qui a été relayée par le président de la CENCO, Monseigneur Monsengo, puisqu'effectivement, la CEI s'arroge des pouvoirs que la loi ne lui reconnaît pas. Il n'appartient pas à la CEI, en tout cas par exemple, de répondre à la question sur la transition. La CEI fixe le calendrier, c'est vrai, la loi le lui reconnaît, mais à partir du moment où ce calendrier-là déborde sur la période de la transition, il aurait été plus sage, à mon avis, à la CEI, soit de se référer à la Cour suprême de justice, puisqu'elle l'a fait pour une affaire banale d'interprétation de dispositions sur le début de la campagne électorale. Elle aurait pu aussi soit se référer à la Cour suprême de justice, ou alors renvoyer le débat au sein de la classe politique, puisque la CEI n'a aucune compétence, en tout cas pour prolonger la transition.
Victoire Eyobi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Forum des As, un quotidien paraissant à Kinshasa. Vous pensez que la CEI aurait dû consulter la Cour suprême de justice pour publier un calendrier qui va au-delà du 30 juin 2006, ou peut-être solliciter une concertation au sein de la classe politique congolaise sur cela?
Disons que dans la procédure, la CEI, après avoir préparé le projet pratiquement sur le plan technique, recourt toujours au Parlement. c'est aux parlementaires de se prononcer et s'il faut aller à la Cour suprême, là ce sera l'étape suivante, mais c'est au Parlement que M. Labbé devrait d'abord recourir et ce n'est qu'après concertation avec les parlementaires qui pouvaient voir comment parler du 30 juillet ou pas. Mais le plus grand problème au niveau de ce calendrier, c'est sur le plan du terrain. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que c'est vraiment véritable que si nous allons au 30 juillet, comme M. Kabouzi l'a dit tout à l'heure, que tout pourra être prêt? Parce que c'est ça le problème. Parce que derrière toutes les prévisions de la CEI, on a l'impression comme si il y a un peu de flou, il y a un peu d'absence de maîtrise des données du terrain. Or, pour mieux faire les choses, je crois que la contribution de Congolaises, n'est pas à écarter. C'est ce que la population réclame.
Oui, rapidement, Wich Amba, vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com. Un journal paraissant sur Internet. Vous intervenez depuis Bruxelles. Est-ce que vous pensez que, avant de publier ce nouveau calendrier, l'abbé Malumalu ou la CEI devaient normalement recourir au Parlement pour trouver un moyen qui pourrait faire en sorte que ce calendrier aille au-delà de juin 2006?
Oui, mais absolument, parce que bon, si nous partons du principe ou de l'hypothèse que le Parlement est la représentation nationale, toutes les forces politiques et sociales sont représentées là-bas. Et étant donné que le 30 juin, normalement, la Constitution en vigueur est caduque, il aurait dû, il était tenu de consulter le Parlement pour trouver un consensus avec les forces politiques et sociales. Moi, j'irais même plus loin. Il faudrait que les forces politiques et sociales qui s'étaient retrouvées au dialogue intercongolais se revoient au nom du principe de l'acte contraire et qui se revoient pour voir combler le vide juridique que nous risquons d'avoir après le 30 juin.
Mais la CEI dit que selon la loi portant organisation fonctionnement de cette institution, c'est à elle qu'il est dévolu de fixer un calendrier électoral sans consulter qui que ce soit.
Oui, mais le problème c'est que la situation qui nous occupe actuellement, c'est pas seulement un problème juridique, c'est un problème politique aussi. Hein, on constate que en prolongeant le délai encore une fois pour les élections, mais l'abbé Malumalu vient de sceller l'échec de la transition, parce que le régime en place a été chargé d'une mission par la transition, réunifier le pays, pacifier, réconcilier, former une armée et organiser des élections. Aucun des objectifs n'a été atteint.
Voilà.
C'est un échec.
On vous a compris. Reprise mercredi dernier des plénières à l'Assemblée nationale après un mois de silence. Le nouveau président de cette institution, Thomas Louaka, a été présenté aux députés. Quelles sont les matières qui restent à discuter dans cette session d'avril qui, en principe, est la dernière de la transition? Notre confrère Georges Kamudjova s'y est penché.
Les lois sur l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature et les statuts des magistrats sont au programme de cette session. Ces lois avaient été inscrites à l'ordre du jour de la précédente session ordinaire sans être examinées. Ne sont pas reprises à cette dernière session de la transition les lois sur le financement des partis politiques, sur les statuts de l'opposition et sur les statuts des personnels militaires. Autre dossier sur la table de l'Assemblée nationale, la loi sur les violences sexuelles, cette loi organique, complétera l'article 15 de la Constitution et proposera des sanctions relatives aux violences sexuelles. Autre tâche pour cette période de l'Assemblée nationale, valider les mandats de certains députés avant d'examiner les rapports des commissions. C'est dans ce cadre qu'il est prévu de s'intéresser au dossier de révocation des travailleurs d'une vingtaine d'entreprises. Mais il y a aussi une inquiétude, le rapport de la commission Lutundula sur les contrats signés par les anciens belligérants pendant la guerre n'est pas au programme. Aucune raison n'est avancée jusque-là. Enfin, le contrôle parlementaire, qui est une tâche classique de cette institution, n'est pas en oubli. Reste à savoir si les députés vont accomplir tout ce travail dans la cinquantaine des jours restants.
Voilà, Victoire Eyobi, vous êtes rédacteur en chef du quotidien Forum des As, En suivant cette analyse de notre confrère Georges Kamoudjova, y a-t-il encore, d'après vous, des matières importantes qui restent à traiter par l'Assemblée nationale, ou sinon les députés n'ont plus vraiment rien à faire, car c'est l'impression qu'ils ont donné pendant tous ces temps morts d'un mois?
Disons, comme le confrère vient de dicter tout à l'heure, il y a encore de la matière, notamment l'organisation au conseil du Conseil supérieur de la magistrature et le financement des partis politiques. C'est également très intéressant, d'autant plus que nous allons aux élections. Et vous le savez, la plupart de nos partis n'ont pas de financement réel et ça pose problème. Alors, il y a également le statut de l'opposition. Ce que je voulais soulever beaucoup plus, c'est dans la perspective de l'après 30 juin. Parce que la nouvelle constitution promulguée par le chef de l'État au mois de février dernier dit que les institutions actuelles vont rester en place jusqu'à l'avènement, à l'arrivée des nouvelles institutions. Je me dis que quelque part, il ne fallait pas que le Parlement soit fermé ou quoi, ou que les parlementaires, c'est vrai que la plupart d'entre eux vont aller en campagne. Surtout que la date surtout que la campagne n'a pas encore commencé, mais au moins l'institution doit continuer à fonctionner, doit continuer à s'occuper des matières qui sont sur sa table, et je crois qu'en ce moment-là, on pourra rendre un service louable à la nation.
Félix Kabouizi, vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus, paraissant ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des matières importantes à traiter, mais que l'Assemblée nationale ne s'est pas pressée du tout à traiter?
Bon, disons que, à mon avis, toutes les huit matières sont importantes. Hein, elles sont importantes. Il y en a qui auraient dû être élaguées depuis assez longtemps. C'est notamment le cas, par exemple, de la loi sur la magistrature. Ça, c'est une loi qu'on attend depuis pratiquement le début de la transition. Vous vous rappelez les grèves qui ont été organisées au début de la transition avec le personnel judiciaire pour obtenir cette loi. Mais ça traîne, je crois, plus de deux ou trois sessions.
Et en quoi cette loi est importante? Sur les magistrats.
Non, elle est importante pour raffermir d'abord l'indépendance de la magistrature, en tout cas de la justice dans notre pays. Il va falloir qu'il y ait une loi vraiment qui traduise dans les faits cette indépendance-là, d'autant plus que d'ici là, nous allons aborder les élections et on a vu comment la Cour suprême de justice s'est organisée, hein, comment elle a rendu un certain nombre de décisions par rapport aux requêtes qui lui ont été adressées. Je crois que c'est important vraiment qu'une telle loi soit débattue avant les élections pour qu'on sache, disons, pour que cela donne une certaine crédibilité également, disons, aux contentieux électoraux lorsqu'ils vont avoir lieu. La loi sur l'armée, elle est importante. La loi sur le financement des partis politiques. Vous rappelez que la dernière semaine, nous avons débattu du financement occulte de certains partis politiques, mais il faudrait qu'on sache, par exemple, quelle peut être la hauteur du coût, par exemple, des élections. On ne comprendrait pas, par exemple, dans un pays où les gens ploient dans la misère la plus totale, qu'on apprenne que certains candidats à la magistrature suprême ont des budgets de 22, 25, 30 millions de dollars. Il faudrait qu'on sache d'où ils ont reçu cet argent et si la loi vraiment peut permettre que des gens s'autorisent de telles dépenses pour la campagne électorale. Donc je crois que même la validation des mandats, je crois que la grande difficulté qu'on va connaître pendant cette session pour le Parlement, ce sera probablement la validation des mandats. C'est vrai qu'à chaque session, le Parlement prévoit toujours la validation des nouveaux députés parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui peuvent être...
Mais ça c'est par rapport à l'arrêt de la Cour suprême concernant les députés qui n'appartiennent plus à leurs composantes, qui les ont envoyés là-bas.
Non, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux jours, les députés se sont réunis à huis clos. Est-ce que c'était pour débattre de cette question-là? Puisque effectivement, s'il y a validation, il y aura probablement deux types de validation. D'abord, la validation d'un certain nombre de députés qui sont morts en cours de vacances ici. Il y en a eu, je crois, un ou deux. Et la grande validation qu'on attend, celle de plus de 200 députés qui ont quitté leur composante. Est-ce que cela sera possible? Puisque si on fait partie de 200 députés, probablement que nous aurons une longue bataille au Parlement et probablement que la session risque d'être complètement chômée.
Wechi Amba, vous êtes rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal paraissant sur Internet, et vous intervenez au téléphone depuis la Belgique. Mais il y a quand même, en suivant cette analyse de notre confrère Georges Kamoudjova, il y a quand même une inquiétude qu'il a signalée. Il y a le rapport de la commission Lutundula sur les contrats miniers signé par les anciens belligérants à l'époque de la guerre, qui n'est pas au programme de cette session d'avril, alors que ce rapport intéresse beaucoup des Congolais. Quelle interprétation vous faites de cette omission, si on peut l'appeler ainsi?
C'est un élément très important que vous soulevez là, parce que je me réfère à l'interview que le chef de l'État, Joseph Kabila, a accordé à l'hebdomadaire parisien Jeune Afrique à propos du rapport Lutundula. Le chef de l'État a répondu, rapport oui, rapport officiel non, puisqu'il n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Moi j'ai dit c'était très grave. Le rapport de Lutundula n'a pas été officiellement publié, mais de larges extraits ont été publiés tant par la presse nationale qu'internationale. Et là-dedans, des très hautes personnalités de l'entourage présidentiel sont mises en cause dans deux cas de contrats léonins signés au détriment de la République. Et c'est là où...
Mais il n'y a pas que... Il y a aussi des anciens belligérants qui occupaient l'est du pays, ou même l'ouest.
Oui, tout à fait. Tous les belligérants, tous, ils sont dedans. Hein. Mais ce qui est plus grave aussi, c'est que ça a continué. Depuis 2003, les contrats ont été continués en matière minière, tout ça au détriment de l'État, mais au profit de certaines organisations politiques. Alors, là où c'est extrêmement grave, c'est que si la justice congolaise était indépendante, les éléments que la presse, tant nationale qu'internationale, a diffusés, auraient déjà suffi pour que cette justice se saisisse d'office, pour convoquer les personnes citées, sans attendre que l'Assemblée nationale se prononce. Donc voilà, moi je dis, j'ai peur que les élections ou la nouvelle constitution ne changent rien. Parce que le nouvel ordre politique, nous ne pourrons pas avoir si les mêmes hommes, les mêmes dirigeants impliqués dans ce rapport Lutundula se retrouvent demain au pouvoir.
Voilà.
Voilà ce que je peux dire.
Félix Kabouzi, il y en a qui craignent que si ce rapport est débattu maintenant, que plusieurs personnalités soient éclaboussées, que cela puisse perturber la transition avant les élections. Rapidement, en 30 secondes.
Non, ça aurait été vraiment intéressant que ce rapport soit débattu, puisque on ne peut vraiment pas comprendre que des larges extraits de ce rapport ont été mis à la place publique. Il y a eu des accusations, il y a eu des révélations également, que le Parlement, qui est le destinataire principal de ce rapport, ne puisse pas en débattre. Ce serait vraiment dommage. Je souhaite sincèrement que ce dossier soit inscrit à l'ordre du jour et que le Parlement l'adopte officiellement pour qu'il soit opposable à tout le monde.
Victor Iyobi, vous êtes rédacteur en chef du Forum des As, paraissant un quotidien paraissant à Kinshasa. Mais pourquoi le Parlement, d'après vous, n'a pas inscrit ce sujet à l'ordre du jour?
Nous ne savons pas expliquer les raisons profondes de cette omission. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus le contexte politique qui pèse. À quelques jours, à quelques semaines des élections pratiquement. Et moi, je me dis que tous ces dossiers vont rebondir d'une manière ou d'une autre. D'autant plus que nous allons dans un état d'ordre et que tout ce qui a été fait dans des conditions mafieuses devra être mis au clair.
Voilà, fin de cette tribune de la presse au cours de laquelle nous avons traité trois sujets. La journée internationale de la presse, la publication du calendrier électoral par la commission électorale indépendante et les débuts de plénière à l'Assemblée nationale après un temps mort. Nous en avons discuté avec trois confrères, Félix Kabouzi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus, paraissant à Kinshasa, Victoire Eyobi, rédacteur en chef du quotidien Forum des Actes, paraissant également ici à Kinshasa, et enfin Wichi Amba, rédacteur en chef de congoindépendant.com, un journal paraissant sur Internet. Il intervenait à partir de Bruxelles, en Belgique. Merci à nos confrères d'avoir répondu à notre invitation. Bon week-end et à lundi prochain. I'm going to go to the hospital.
Thank you.